Jean-François Mounet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Genfit. On va parler avec vous de votre actualité. Une actualité pas facile si on regarde le cours de bourse de Genfit. Beaucoup d'informations ont circulé au cours des dernières semaines. Quand on regarde effectivement le profil de la société, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des investisseurs, clairement. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter sur ce que vous êtes en train de faire?
Je ne crois pas du tout. En fait, il y a de l'inquiétude qui peut être fabriquée par certains, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore. Il y a des choses qui sont parfois un petit peu mal interprétées, notamment le départ de Sophie Ménien, notre directeur médical, dont on peut encore dire un mot, si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Pour le reste, je ne vois absolument aucune raison sur le plan médical, scientifique, industriel, qui nous amènerait à avoir la moindre inquiétude. Si l'inquiétude, c'est de dire on n'a pas de certitude à 100% que tous les produits arrivent sur le marché, c'est l'inquiétude qui est inhérente à n'importe quelle biotech. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre calendrier, notre rythme, notre consommation de cash, la position de la trésorerie, rien n'amène logiquement à aucune inquiétude.
Oui, il y a effectivement ce départ de Sophie Ménien. On a vu des investisseurs, notamment américains, être des gros, d'ailleurs, être vendeurs à découvert de Genfit. Donc il y a eu un impact significatif de ce départ.
Je pense qu'il faut, il faut parler de ces deux éléments. Premier élément, le départ de Sophie Ménien, c'est quelqu'un qui m'est proche depuis longtemps, qu'on connaît bien depuis moi plus de 15 ans, qui part pour des raisons qui sont strictement personnelles. On est obligé de respecter sa vie privée, ce qui nous a amené à ce qu'elle nous demande de ne pas donner les raisons publiques de son départ. Elle ne part absolument pas pour des raisons liées à Genfit. Je pense qu'elle aurait plutôt préféré continuer l'aventure avec nous. Elle a dû faire des choix différents et je crois qu'on ne va pas commenter plus par rapport à ça. Par rapport à ça, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a dans cette fonction-là et dans d'autres fonctions préparer totalement l'avenir, puisqu'on a mis en place depuis déjà pas mal de temps un adjoint du directeur médical, Pascal Birman, qui a été vice-président des programmes de développement clinique chez Ipsen. On n'est pas avec un quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui a une immense expérience dans le développement pharmaceutique et clinique, et donc qui aujourd'hui répond à côté d'un nouveau directeur des réglementations, un nouveau directeur des data, etc. Enfin, on est de plus en plus staffé, et je pense qu'au contraire, il y a aucune raison de penser qu'aucun de nos développements cliniques ne souffre de ce départ. Oui, en tant que personne, on la regrettera, c'est très clair. On continuera d'ailleurs d'avoir de nombreux contacts avec elle, ça n'est pas le sujet. Concernant les ventes à découvert, je pense que ça c'est une erreur de penser, parce qu'elles ont baissé, par exemple, dans les derniers mois, sans autre motif que simplement constater qu'elles ont baissé. Je pense qu'il faut savoir que, par exemple, la totalité de ces ventes à découvert sont en fait des compensations, des balances par rapport à des investisseurs qui ont des gros tickets dans Genfit, soit au niveau des actions, soit au niveau des convertibles qu'on a mis en place. Et je crois que c'est simplement une façon pour eux d'avoir, d'ailleurs à minima, une forme de garantie, une forme d'assurance. Ça n'est pas, et personne pourra démontrer que c'est le signe d'une quelconque, on va dire, suspicion par rapport à l'avenir de Genfit. C'est parfois traduit, à mon avis, à tort de cette façon, mais ça n'est pas, vous interrogez les banques les plus spécialisées, toutes vous diront la même chose, ça n'est pas quelque chose qui correspond à une attitude par rapport au développement ou à la stratégie de l'entreprise.
Alors on a pu lire que vous aviez levé beaucoup d'argent et que vous aviez finalement un chiffre d'affaires d'une boulangerie, c'est un reproche qui vous a été fait. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est lié à la biotech? Et effectivement quand on a de telles levées de fonds et qu'au final on n'a pas, d'après ce qu'on lit en tout cas, voilà, on n'a pas le résultat.
Ouais, je crois que vous connaissant, vous avez la réponse. Je pense qu'il s'agit du business model de la biotech qui consiste à créer de la valeur en développant des médicaments et des médicaments qui, soit par leur chiffre d'affaires futur, soit surtout d'ailleurs par les alliances qui sont signées ensuite et par les chiffres d'affaires qui sont générés soit à la fois par l'entreprise, soit par ses partenaires, représentent effectivement des retours sur investissement considérables. Est-ce que je peux dire que 95% des entreprises de biotechnologie ont le même modèle dans le monde? Oui. Je suis sûr de ne pas me tromper en disant ça.
Ça veut dire aussi qu'il y a du risque, forcément. On est aussi dans une... Même si on est une société cotée en bourse, toutes n'ont pas ce même risque-là que les biotech, peut-être.
Mais être cotée en bourse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. En ce qui concerne les biotech, je pense qu'il s'agit d'entreprises qui ont le même risque, d'ailleurs, que les entreprises pharmaceutiques dans le développement des médicaments. Vous savez qu'un médicament, C'est un long chemin, ça dure d'ailleurs 15 ans, ce qui effectivement est peut-être pas adapté à l'investisseur classique. Peut-être qu'il faut des investisseurs avertis, et nous avons jamais eu cesse que d'avertir les gens sur le fait qu'il pouvait y avoir des études qui se terminent bien, effectivement. Plus on approche de la phase 3 et de la fin, plus la probabilité est très élevée d'aboutir. Mais enfin, effectivement, le chemin est difficile et il y a beaucoup de produits qui s'arrêtent en route. Je crois que c'est effectivement ça le risque inhérent à une biotech, mais c'est le risque inhérent à une pharma. Quand une pharma développe un produit, c'est la même chose. Mais j'aurais tendance à dire qu'on constate aujourd'hui que c'est plutôt les biotech qui aboutissent mieux que les pharma pour des tas de raisons, de flexibilité, de choix peut-être plus pondérés par une aversion à dépenser trop et à orienter les investissements d'une manière privilégiée vers les produits qui ont le plus de chances d'aboutir.
Alors, pour ajouter, on va dire, à ce climat à l'égard de Genfit, on a aussi pu voir des doutes sur la nage, sur ce que c'est que la nage, finalement, disant ce que vous êtes en train de développer. Est-ce que véritablement il y a un sujet NASH voilà. Est-ce que c'est pas simplement une voie sans issue?
Je crois qu'on sait que le foie gras aux États-Unis atteint presque plus d'un tiers de la population. On sait qu'en Europe, même la France, enfin globalement d'autres pays européens sont touchés autant qu'aux États-Unis. Parmi ces patients qui ont du foie gras, un tiers à peu près, ça veut dire à peu près 10% de la population adulte, a de la NASH. Est-ce que toute la NASH doit être traité, quel que soit son niveau de gravité? Non. Probablement, ce qui est aujourd'hui un consensus, et ce n'est pas le consensus de Genfit, c'est le consensus de toutes les grandes sociétés savantes, est de considérer qu'effectivement, 2-3% de la population adulte, ce qui est quand même considérable, a un niveau de NASH, qui correspond d'ailleurs aux essais cliniques qui sont en cours dans les différentes sociétés, c'est-à-dire avec un score de NASH supérieur à 4, égal ou supérieur à 4 et d'une fibrose avancée de type F2, F3, je rappelle que la cirrhose c'est F4, eh bien on considère que cette population est à risque de développer rapidement une cirrhose et doit être traitée. On a là une population qui représente effectivement, selon les pays, entre 2 et 3% de la population. Je me réjouirais de penser qu'en France, cette maladie n'existe pas, mais je pense qu'il n'y a que dans quelques esprits chagrin qu'on considère que la France, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, quoi. La France échapperait soudainement au problème de l'obésité, etc. Non, malheureusement, la France est également touchée.
Alors, lors de vos dernières publications, il y avait eu aussi un petit peu des doutes finalement sur les résultats de l'étude que vous aviez pu publier, et les gens commencent peut-être à s'inquiéter en disant, en ce qui concerne en tout cas la suite, ça va être peut-être compliqué pour Genfit. On en est où justement sur le...
Écoutez, au niveau des calendriers, je pense qu'il faut avoir en tête deux éléments de calendrier importants. On a une étude dans la PBC pour laquelle nous avons fini de recruter les patients cet été et qui garantit d'avoir des résultats d'ici la fin de l'année. Ça, je crois que c'est important aussi. Et on n'aura pas le temps ici de développer la PBC, mais c'est quand même dans la PBC, il y a Intercept qui a des difficultés au niveau de la safety. Dans la PBC, il y a effectivement aujourd'hui encore des places intéressantes à prendre. Ce n'est pas une maladie aussi développée que la NASH, mais ça reste important. Ensuite, aujourd'hui, on a annoncé, si vous vous en souvenez, au mois de mai ou juin, qu'on avait terminé le recrutement des 1000 et quelques 1020 patients nécessaires pour la première étape qui s'appelle le subpartage ou le conditionnel approval en Europe, qui permettra d'avoir des résultats fin 2019. Je confirme que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le dernier patient traité aura ses 18 mois de traitement et on aura les résultats fin 2019. Et effectivement, c'est sur la base de ces résultats, donc les résultats d'une deuxième biopsie à comparer à la première, que des dossiers peuvent être présentés à ce moment-là aux agences réglementaires pour obtenir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Ça veut dire que le produit pourra commencer à se vendre en 2020, dès que cette autorisation de mise sur le marché aura été obtenue. Ça, c'est quelque chose qui est, tout à fait opposable à qui que ce soit. C'est une échéance, c'est une date. Ensuite, dire qu'on garantit à 100% que les résultats seront parfaits, j'ai jamais dit ça, mais que le calendrier, celui-là, oui, nous le garantissons.
Alors, vous parliez d'Intercept. Quand on regarde les valorisations Genfit-Intercept, on peut se dire, effectivement, est-ce qu'il y a des doutes sur Genfit vu la valorisation par rapport à Intercept, malgré ce que vous avez dit tout à l'heure en disant il y a peut-être des inquiétudes sur Intercept. En bourse, la messe est dite pour les investisseurs.
Je ne suis pas certain, puisque rappelez-vous quand même que Intercept qui a d'ailleurs perdu 5,5% hier. Vous voyez, c'est la vie n'est pas rose pour tout le monde, tout le temps. Je crois qu'Intercept a valu beaucoup plus. Quand Intercept valait 400-500 dollars l'action, ils en valent aujourd'hui 120. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'ils valaient il y a un an. Mais il faut regarder ça sur plusieurs années. Je crois qu'il faut savoir aussi qu'Intercept est dans un calendrier où ils veulent annoncer des résultats aux alentours de, je sais pas, du printemps 2019. Je crois simplement que nous, quand nos résultats PBC seront publiés, on rentrera dans une logique plus positive et nous approchant de l'échéance, c'est-à-dire fin 2019, je suis certain qu'il y aura un regain d'intérêt de l'ensemble des investisseurs pour l'action de Genfit, pour la bonne raison, c'est que la plupart des investisseurs institutionnels, notamment aux États-Unis, préfèrent rentrer sur les valeurs à quelques trimestres des échéances les plus importantes.
Le mot de la fin, quand vous voyez Genfit qui inquiète, comment vous comptez, je dirais, retrouver la confiance des investisseurs, qu'ils soient particuliers, petits porteurs, qu'on voit faire un certain nombre de commentaires sur les forums ou les réseaux sociaux, et les autres investisseurs?
Ce que je dois vous dire, c'est que le départ de Sophie Ménia, nous l'avons commenté auprès d'un certain nombre de groupes d'investisseurs. On a plus d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels qui se sont montrés très confiants et n'ont pas été, je dirais, ont été très rassurés par le fait qu'on avait une équipe en place, etc. Ils sont habitués aussi à des mouvements dans les entreprises, même si celui-là est pour des raisons qui ne sont pas celles de changer d'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'il est plus compliqué au niveau des investisseurs individuels de communiquer. Pour la bonne raison, c'est que tous n'ont pas le même niveau de compréhension du modèle économique de l'entreprise, de ses échéances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en aparté, c'est même des gens qui s'intéressent de manière importante à la biotech, il faut qu'ils travaillent un peu pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un subpartage. En quoi, effectivement, ça nous permettra de déposer un dossier d'AMM, c'est quelque chose qui ne tombe pas sous le sens commun. Et je crois que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'effectivement, parmi les investisseurs individuels qui sont nombreux, il y a des niveaux de connaissance de la biotech et des raisons pour lesquelles ces gens-là ont investi dans la biotech qui sont tellement variées que ça rend cette communication-là beaucoup plus importante. Et dès que certains, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore, créent une sorte de climat de peur, peut se créer une forme d'inquiétude parmi ces investisseurs. Je suis là aujourd'hui un peu pour tenter de les rassurer, mais je ne suis pas certain que ça suffira et nous continuerons de faire tous les efforts nécessaires. Il faut simplement savoir que derrière, tout ce qui concerne le développement industriel, dans les biomarqueurs, dans le pédiatrique, dans les combinaisons de produits, dans la PBC, dans la NASH, se présente d'une manière tout à fait normale, et avec des échéances, avec des consommations de cash tout à fait satisfaisantes. Quand je lis, comment voulez-vous, quand je lis qu'on a une dette à rembourser en 2020, c'est une erreur fondamentale. En fait, c'est une obligation convertible qui tombe à échéance, non pas en 2020, mais 2022. On sera déjà bien loin des échéances de fin de phase 3. Et en fait, la plupart de ces gens-là auront converti en actions pour prendre une plus-value meilleure. Donc, on se retrouve effectivement dans des situations complexes qui ne sont pas faciles à faire comprendre, mais on est prêt à le faire à chaque fois qu'on nous demandera de le faire.
Merci Jean-François Mounet d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.